Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information dont voici les titres. L'armée restera dans les régions inondées aussi longtemps que nécessaire. Les médecins sont contre la baisse de leur salaire. Et puis en moto, c'est la victoire de l'Espagnol Lorenzo au Grand Prix de Brno. Le président du conseil régional de Liberec, Stanislav Eichler, a indiqué que l'armée, les pompiers et les forces de l'ordre continueront leur travail dans les zones touchées par les inondations, et ce aussi longtemps que nécessaire. Une déclaration qui fait suite aux rumeurs selon lesquelles les militaires allaient partir rapidement. Un millier de soldats ont été déployés pour prêter main forte lors des travaux de déblaiement et de réparation de la voirie, tandis que des renforts policiers patrouillent pour empêcher les pillages. Des milliers de foyers restent inhabitables dans la région après les crues de la semaine dernière et l'armée construit des ponts provisoires afin d'acheminer les biens de première nécessité. De violents orages ont à nouveau provoqué des inondations dans la commune de Bilikostel nad Nisou, dans la région de Liberec. Il a suffi d'une demi-heure de pluie torrentielle pour que l'eau des champs voisins inonde à nouveau la commune. Les gens sont désespérés. Depuis une semaine, ils nettoient les dégâts et maintenant il faut tout recommencer. C'est ce qu'a déclaré le maire de la commune, Jerzy Formanek. Ce dernier critique la mauvaise gestion de la crise par les autorités régionales et le peu d'argent reçu jusqu'à présent pour faire face aux conséquences des inondations. Les restrictions budgétaires touchent également le secteur de la santé et feront l'objet d'une réunion ce lundi entre le ministre de la Santé, Léo Schäger, et les représentants syndicaux des médecins. Les négociations s'annoncent difficiles. Les syndicats ont en effet appelé à augmenter les salaires dans les cliniques et hôpitaux publics et ont même appelé les docteurs à chercher du travail à l'étranger si le ministère n'augmente pas leur salaire d'ici la fin de l'année. Les bas salaires ont déjà poussé un bon nombre de jeunes docteurs tchèques à tenter leur chance ailleurs en Europe. Les conseillers municipaux de Prague envisagent de débattre à nouveau de l'expulsion des 100 domiciles fixes du centre-ville et de les transporter vers des endroits aménagés dans la périphérie. Le conseiller Jerzy Janeczek, à l'origine de ce projet, indique que cette démarche aura plusieurs avantages et permettra notamment aux sans-abri de vivre comme ils l'entendent, sans être contrôlés par la police. Il décrit les camps aménagés comme une oasis où ils pourront être emmenés par minibus et où des travailleurs sociaux pourront s'occuper d'eux. Les défenseurs des droits de l'homme et les ONG sont hostiles à ce projet qu'ils voient comme une initiative visant à créer un ghetto dont les SDF ne pourront sortir pour retourner à la vie normale. En moto, je vous le disais en titre, c'est l'Espagnol Lorenzo sur Yamaha qui a remporté le Grand Prix MotoGP de République Tchèque, la 10e épreuve du championnat du monde qui se disputait sur le circuit de Brno en Moravie et qui n'a pas trop été perturbé par les orages qui sont en ce moment en train de se déplacer au-dessus du territoire tchèque. Un mot de football pour finir, pour vous dire que l'ancien international tchèque Jan Koller est toujours efficace malgré ses 36 ans. Samedi soir, il a inscrit 2 buts et a permis à son club de l'AS Kan de ramener 1 point d'un déplacement difficile à la Meno contre le Racing Club Strasbourg. Score final 3-3, il s'agit de la nationale, l'équivalent de la 3e division en France. La météo s'annonce maussade pour ce début de semaine. Plus de détails dans nos prochains bulletins. Et dans un instant, vous retrouvez la culture avec un chapitre passionnant sur les légions tchèques sur le territoire russe. Ah !
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission culturelle du week-end. Retour aujourd'hui sur le festival de cirque Letni Letna qui s'achève le 31 août. Dans cette émission, je vous propose donc de mieux découvrir 2 des troupes françaises invitées à cette 6e édition, le cirque Trotola et l'atelier Le Fèvre et André. Une émission placée donc sous le signe du nouveau cirque aujourd'hui. Bonjour, donc Bonaventure Gacon, vous faites partie de la troupe du cirque Trotola. Alors j'aimerais savoir ce qu'est déjà le cirque Trotola, c'est quoi ce nom, Trotola?
Alors ça veut dire la toupie en italien.
et vous présentez un spectacle qui s'appelle Volchok dans le cadre du festival de cirque Letni Latna. Alors Volchok, c'est aussi un terme étrange, ça veut dire quoi?
Ben, c'est la toupie en russe. On a utilisé la toupie parce que c'est ludique, ça sert à rien. Ça tourne comme le cirque, c'est éphémère, quoi, ça finit. Et puis il y a un côté, ça procure une petite émotion quand on la voit comme ça. On aimait bien cet objet, quoi.
Et est-ce que ça tourne dans votre spectacle?
Ben c'est un spectacle, oui, il y a une piste ovale, contrairement à la tradition du cirque qui voudrait une piste de 13 mètres ronde. Là, on a deux gradins face à face, et donc il y a de l'acrobatie, jonglerie, du burlesque.
Et alors, est-ce que vous pourriez un petit peu me présenter justement Volchok, quels sont ces numéros, comment est-ce que vous avez construit le spectacle?
Il y a des numéros de technique qui sont bel et bien là, d'acrobatie, d'équilibre, de jonglerie. Et puis ensuite, on a aussi des numéros de un peu burlesque. On travaille avec des gros fardeaux, des gros ballots de chiffon. On essaie d'imaginer un peu comme des fardeaux de la vie qu'on se trimballe, qu'on se refile comme ça, qu'on passe d'un endroit à l'autre du chapiteau. Donc ça, c'est un peu ce qui tient un peu le spectacle, quoi.
Vous tournez, je suppose, beaucoup. Vous faites la France, vous faites l'Europe également. Comment ça se passe un petit peu au niveau des tournées?
On a des contacts aussi aux États-Unis, au Japon, machin. Mais c'est un gros bazar quand même de transporter tout ça. Il y a une grosse logistique, comme ils disent. Donc c'est voilà, on tourne. Ouais. On va aller en Espagne. On a fait pas mal la Belgique, la Suisse. On va peut-être aller en Hollande. Peut-être aussi le Canada, enfin bon, mais là, il faut les mettre les camions sur les bateaux, puis les bateaux sur la mer, tout ça, c'est pas évident.
C'est une troupe un peu internationale, hein, puisqu'il y a quelques nationalités différentes au sein de la troupe, un Danois notamment. Comment est-ce que la troupe s'est constituée? Quand s'est-elle constituée? Comment est-ce que vous êtes un petit peu agrégés tous ensemble?
Ben alors, le Cirque Trotola, on est venu il y a 3 ans, mais avec un autre spectacle. Donc le Cirque Trotola, il existe depuis 2001. On a tourné un spectacle qui a tourné 4 ans, je crois, 4-5 ans. Et ensuite, on a fait un nouveau spectacle. Et c'est sûr que le milieu du cirque est assez petit. Et puis, il se cantonne pas à une région ou une ville. Donc, ce qui a fait qu'on travaille ensemble, c'est par affinité. Parce que mon Titoun et moi, on travaillait dans l'ancien spectacle ensemble. Et puis ensuite, avec Metz, là où on s'est rencontrés, on se connaît depuis longtemps. Puis on connaît son travail, qu'on aime beaucoup, qui est très fin, comme ça. Et du coup, voilà, on s'est proposé de travailler ensemble. Puis après, on a rencontré les deux musiciens, Thomas et Bastien, qui sont marseillais.
Et quelle est un peu la formation de tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de la famille du cirque par voilà tradition familiale, en effet? Ou alors, c'est des gens qui sont venus... Enfin, vous, par exemple, comment est-ce que vous êtes retrouvés finalement dans cet univers?
Moi, j'ai rencontré une troupe de cirque par le biais du violon, parce que je faisais un peu de violon et le directeur du cirque faisait du violon. On s'est rencontrés comme ça, puis petit à petit j'ai commencé à être apprenti chez lui, et après je suis allé dans une école de cirque. Et puis ensuite Metz, ça a été un peu le même genre d'histoire. Et Titoun, elle a travaillé aussi chez CNI en Suisse, parce que les Suisses, avec le spectacle pour enfants CNI, ils organisaient ça. Et puis voilà, mais on n'est pas de famille de cirque, non.
Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se fait, j'allais dire, parce que ici, voilà, vous êtes en République tchèque, est-ce que vous connaissez un peu ce qui se fait ici? Est-ce qu'il y a des échanges? Vous avez vu des spectacles, par exemple, de troupes tchèques?
Ben oui, entre autres, on est assez liés, même beaucoup, avec les frères Forman. Suite à Prague, on va aller à Kratochville, où là, on organise avec les frères Forman, enfin, c'est eux qui organisent une sorte de petites rencontres, et on va jouer là-bas aussi. C'était histoire de pas venir jouer que dans une seule ville en Tchéquie, voilà. Mais on aime beaucoup ce qu'ils font.
Sur la distinction cirque traditionnel, nouveau cirque, est-ce que finalement c'est encore quelque chose d'actualité ou finalement tout a un peu évolué? Comment est-ce que vous définiriez finalement la tendance actuelle? C'est clair qu'il doit encore avoir des cirques très traditionnels qui sont avec des animaux, etc. Mais quel est plutôt comment est-ce que vous sentez un peu la chose aujourd'hui?
Ouais, ben moi je m'importe peu de tout ça. Il y a des cirques traditionnels que j'adore, qui travaillent vraiment bien, des cirques dits nouveaux, tout ça. J'ai l'impression que plus on définit, mais ça c'est dans l'art en général, plus c'est défini par l'intellect, plus la conscience définit les choses, moins les motifs, moins le sentiment est là. Je trouve que pour le cirque, c'est d'autant plus vrai que plus on essaye de le mettre dans des cases, tout ça, plus cet esprit un peu libertaire du cirque, dans l'imaginaire qu'on redevient des gamins quand on vient au cirque et tout, plus ça s'éloigne, plus on essaye d'y réfléchir, de le commenter, tout ça.
Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le cirque, encore et toujours ?
Ben, c'est ce côté où on peut tout faire. Il y a un côté où, voilà, on peut faire un croche-pied à la réalité, la tordre, la, tout devient impossible. Et puis en même temps, il y a une exigence, il y a une force qui est là-dedans, parce qu'il y a une sorte de, c'est une sorte d'hymne, une sorte de liberté, parce qu'on est voyageur et puis on monte nous-mêmes notre baraque, notre chapiteau, on conduit les camions, tout ça, donc il y a une sorte, ouais, une sorte d'élan vers une sorte de liberté comme ça qui me fascine, moi. Même si c'est, oui, il y a beaucoup de contraintes, les répétitions, les blessures, la pluie, les camions qui démarrent pas, tout ça, mais c'est comme ça.
Dans mon rêve, il y avait le chant d'une vieille dame. J'avais dû en voir de tristes poèmes.
Et après le cirque Trotola, que vous avez pu découvrir grâce à un de ses acrobates, Bonaventure Gacon, je vous propose d'écouter Didier André, qui, avec son comparse Jean-Paul Lefebvre, proposait au public pragois son spectacle intitulé La Serre.
Là, on est dans la serre, c'est l'endroit où on joue, et quand il y a le soleil, c'est une vraie serre.
Donc il fait très chaud, alors est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de ce spectacle justement qui porte le même nom, La Serre, comment est-ce qu'il est né ?
Il est né, on avait envie de travailler ensemble avec Jean-Paul, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on se connaît, on fait du cirque tous les deux, on avait déjà travaillé dans un spectacle qui s'appelait Circo, et après on s'est un peu séparés, on avait envie de travailler ensemble, lui ça fait des années qu'il voulait faire un cirque à tendance agricole on va dire, et puis donc ça a été l'occasion, on a eu une commande d'un petit spectacle, d'un petit format de 20 minutes, et voilà, on a fabriqué une serre tunnel en long, et c'est du bifrontal, c'est-à-dire les spectateurs sont de chaque côté, donc ils se voient, et nous on a une scène au milieu où on évolue. Donc c'est petit, c'est très intime, surtout le soir, et voilà, on met quand même 120 personnes, et ça fait une ambiance très très sympathique.
Alors vous dites cirque agricole, pourquoi agricole ? Alors évidemment il y a voilà, le thème de la serre, du jardin, etc., mais pourquoi le thème agricole justement ?
Parce que Jean-Paul était agriculteur avant de faire du cirque, donc voilà, il avait envie de renouer ça. Moi j'étais dessinateur industriel, donc j'ai un peu dessiné le décor, on va dire, on a travaillé ça ensemble, on a tout fabriqué ensemble, le décor, le spectacle, et on avait envie de faire du cirque sur cette base-là. C'est pas vraiment un thème, c'est plus des idées. On travaille avec certains objets agricoles, mais on travaille aussi avec des balles de jonglage qui n'ont rien à voir avec le jardin, on va dire.
Vous dites que vous étiez dessinateur industriel. Comment vous êtes arrivé finalement au cirque ? C'était une passion déjà auparavant ?
Oui, par passion. À un moment, on a eu envie de faire du cirque. Voilà, on a commencé dans une petite école, une plus grande, et puis on a fini par faire du cirque, par devenir professionnel.
30 minutes, c'est court, du coup ça doit être intense au niveau et des numéros, j'allais dire, et enfin voilà, et de ce qu'il faut donner en 30 minutes aux spectateurs.
Bah, oui, c'est assez rapide, mais bon, les spectateurs sont très vite dans l'ambiance. Ici à Prague, il y a une super ambiance, les gens ils sont là, puis ils comprennent aussitôt tout ce qu'on veut, ce qu'on dit, c'est pas le terme parce qu'il n'y a pas de parole, mais ils comprennent aussitôt les subtilités, les blagues, parce qu'il y a beaucoup de second degré, c'est très poétique, mais en même temps c'est rapide. On a fait le même, après ce spectacle-là, on l'a fait évoluer en salle, donc avec un format qui fait 1h20. Donc les choses sont plus lentes et tout. Et dès qu'on revient jouer celui-là, c'est très rapide.
Comment est-ce que vous voyez un petit peu le cirque à l'heure actuelle en France ? Comment se porte-t-il ? J'allais dire, voilà, tout le monde parle de la crise, mais c'est un fait qui existe. Est-ce que vous ressentez déjà les effets au niveau de vos collègues, par exemple, ou vous-même ?
Oui, ben disons, il y a quand même pas mal de troupes qui ont été obligées d'arrêter parce c'est une question d'argent la crise, hein, donc il y a de moins en moins de personnes qui ont de l'argent pour acheter des spectacles, il y a de plus en plus de spectacles qui se fabriquent, donc ça se réduit, ceux qui peuvent vivre encore.
Et par rapport, j'allais dire, à la définition du nouveau cirque, où vous situez, pour vous, vous faites partie de cette tendance-là, est-ce que, alors, finalement, les étiquettes, vous vous en fichez un peu ?
Les étiquettes, on s'en fiche, oui, après... On s'aperçoit que quand un théâtre, surtout en France, nous achète, il est obligé de mettre une étiquette. Ils mettent toujours dans cirque. Alors, ils nous classent souvent dans cirque, des fois dans nouveau cirque. Ici, c'est un festival de nouveau cirque, je pense. Enfin, je connais pas le tchèque, mais... Donc, voilà, on est classé un peu à droite, à gauche, mais ça fait 20 ans qu'on fait du cirque. On a voulu faire du nouveau cirque il y a 20 ans. Donc, 20 ans après, il doit être un peu ancien. Quand on a fabriqué la serre, on était avec... C'était une commande, c'était il y a 8 ans, une commande de nouveau cirque. Et tous les autres, on trouvait ça très nouveau, puis nous, on trouvait ça plutôt ancien. C'est un peu ringard. Et en fait, ça fait 8 ans qu'on vit et les autres ont plus ou moins arrêté. Nous, on continue depuis 8 ans. Donc, est-ce que c'est toujours du nouveau cirque? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que quand le public est là, ça marche. Ils sont contents, ils rigolent et, voilà, et c'est ça qui nous plaît, en fait.
Dans mon rêve, il y avait le chant d'une vieille dame. J'avais dû en voir de tristes poèmes. Un grand feu qui réchauffait nos âmes. Une lueur d'espoir comme dans un poème.
Parti ensemble, mon rêve à Level Camp. Nomadisant sur les routes du destin. Les rêves, ça ne dure jamais longtemps. Petite roulotte poursuit son chemin. La caravane passe. La caravane passe. La caravane passe, elle est en train de s'arrêter. Les chiens n'ont pas fini d'aboyer.
C'est la fin de Culture sans frontières qui était consacrée aujourd'hui au festival de cirque Letni Letna. Je rappelle quand même que c'est le plus grand festival de cirque en République tchèque qui accueille tous les ans, depuis 6 ans, beaucoup de troupes françaises. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Derrière les murs, des murmures, la solitude nous ronge, les rues vides nous mettent en face.
La caravane passe, passe, la caravane passe, la caravane passe, passe, la caravane passe, la caravane passe, elle est pas prête de s'arrêter, et les chiens n'ont pas fini d'aboyer.
Des chameaux qui portaient le monde entier sur leur dos.
On se pressait pour rentrer sous les tentes. Écoutez ces histoires fascinantes.
Je me suis cogné la tête contre une barrière douanière, interné sur une terre inhospitalière.
Les gardes frontières ratissent la côte. Voilà la manière.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouveau guide touristique de Radio Prague qui nous conduira dans le sud-ouest de la Moravie à Telč, une ville de 600 habitants située non loin de la frontière autrichienne, au milieu d'une ancienne voie qui reliait Prague et Vienne. Chaque année, Telč est visité par près de 300 000 touristes qui viennent découvrir son centre historique et son château Renaissance, classé depuis 1992 au patrimoine de l'UNESCO. La concentration des choses à découvrir à Telč est ces jours-ci encore plus importante, car la ville accueille un projet culturel et historique intitulé « Autriche, Tchéquie, divisée, séparée, réunie ». Ce projet transfrontalier a été conçu par les gouverneurs de Basse-Autriche et de la région de Vysočina à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du rideau de fer. Des objets d'art exposés documentent la proximité historique et culturelle des Tchèques et Autrichiens, deux peuples réunis pendant près de 400 ans au sein de la monarchie austro-hongroise, puis divisés au moment du partage de celle-ci en 1918, à nouveau séparés pour plus de 40 ans par le rideau de fer et réunis de nouveau il y a de cela 20 ans. Les objets les plus précieux empruntés par la partie tchèque pour cette exposition qui se déroule jusqu'au 1er novembre, parallèlement dans trois villes, Horn et Raps en Basse-Autriche et Telch nous sont présentés par son commissaire Michal Stehlík.
Nous exposons un écrit du roi Přemysl Otakar II datant de 1253, des autographes de Gustav Mahler et des originaux de partitions de ses symphonies. Il y a aussi un tableau d'Egon Schiele.
Peintre Art Nouveau né à Vienne, Egon Schiele s'est installé pour de longues années à Český Krumlov, dans le sud de la Bohème, où une galerie porte aujourd'hui son nom, tandis que le compositeur Gustav Mahler, né près de Jihlava, a vécu et composé à Vienne. Et on pourra ainsi continuer l'énumération des liens qui unissent Tchèques et Autrichiens, et que l'exposition se propose de mettre en lumière. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est le cas aussi du plus précieux des objets exposés, la couronne de Saint-Venceslas, symbole de l'État tchèque. La couronne en or, ornée d'une centaine de pierres précieuses, fabriquée en 1347 pour le couronnement de Charles IV et dédiée au patron des Tchèques Saint-Venceslas, a joué un important rôle également dans l'histoire autrichienne, car depuis 1527, les empereurs d'Autriche étaient couronnés rois de Bohême par cette couronne. Le touriste qui visite Telch est séduit par le charme de la place centrale, bornée de maisons à arcades de style Renaissance, parfaitement restaurées, avec au milieu une imposante colonne mariale et deux fontaines baroques. Derrière les frontons de maisons historiques rivalisant de couleurs se dresse la tour d'église gothique et baroque. Telch, qui fête cette année ses 910 ans, possède un magnifique château, sélectionné comme le plus beau en Tchéquie dans une enquête organisée par l'Institut national du patrimoine. Pour le châtelain Bohumil Norek, ce château est un bijou de la Renaissance.
La première mention écrite d'un château fort gothique qui se trouvait à cet emplacement date de 1339. C'est alors que le roi Jean de Luxembourg offre Telch au seigneur de Radetz en 1554-1556. Zachariach de Radetz remanie l'ancien château fort en demeure renaissance confortable et l'agrandit. Le complexe de bâtiments qu'il fait construire est l'expression la plus pure de l'architecture renaissance et c'est cela, la particularité de Telch, c'est ce qui l'a rendu célèbre.
Selon la légende, les origines de Telch sont plus anciennes, remontant à la période d'avant 1090, comme l'observe Helena Benešová du musée de Telch. La légende situe la fondation de Telch à l'an 1099. Selon cette légende, le prince de Bohême Břetislav et le margrave de Moravie, Otto II, ont livré une bataille aux environs de Telch. Son vainqueur, Otto, a fait ériger en guise de reconnaissance une chapelle consacrée à la Vierge Marie qui allait être élargie en église du même nom qui fait aujourd'hui partie du noyau historique de la ville. En souvenir de cette légende, Telch considère l'an 1419 comme la date de sa fondation. La première étape des travaux de remaniement du château de Telch a été confiée à l'architecte de Slavonice, Leopold Estreicher, auteur de précieuses décorations intérieures en sgraffite. Profondément impressionné par ses voyages en Italie, Zacharias de Hradec amène en Telch des artistes italiens. La transformation du château achevé par l'architecte italien Baldassare Magno d'Argogne. Les visiteurs admirent le plus les plafonds à caissons en bois sculptés qui rendent les salles. Il s'agit pour la plupart de représentations de divinités et de héros mythiques de l'Antiquité. La plus impressionnante et la salle dorée qui traverse toute une aile du palais nord. La salle de théâtre se distingue par des ornements en forme de mascarons posés sur les murs. Le château abrite aussi une riche collection de faïences de Delft, une bibliothèque comptant plus de 8000 livres. Telch, dont le château et le centre historique sont classés au patrimoine de l'UNESCO, s'est aussi forgé une image de ville musicale. Chaque année, depuis 1995, elle accueille l'Académie franco-tchèque de musique et elle est aussi le théâtre du plus long des festivals de musique intitulé « Les vacances à Telch » et qui s'étend sur toute la saison estivale. C'est la fin du programme en français de Radio Prague. Merci de nous avoir écoutés. Merci encore de votre fidélité. Je vous dis au revoir. Nasrélanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.